Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Les muses s'amusent en visite au Panthéon. Seconde partie, le Panthéon, une visite pas comme les autres.
Ce soir, nous allons parler des œuvres que l'on voit à l'intérieur de la nef du Panthéon, au rez-de-chaussée. Et ce sont des œuvres qui ont été choisies par Monsieur le Marquis de Chennevières. Monsieur le Marquis de Chennevières avait été nommé directeur des Beaux-Arts en 1873 par MacMahon, président de la République, maréchal et garant de l'ordre moral. Je cite la manière dont il se définissait lui-même. Et monsieur le marquis de Chennevières, on s'en doute bien, était monarchiste et catholique. Le but était d'essayer d'empêcher le Panthéon de devenir une nécropole républicaine et démocratique. Il s'agissait de ramener la France dans le droit chemin monarchique et catholique. C'est la raison pour laquelle le marquis de Chennevières va demander à l'abbé de cette église, puisque c'est encore à ce moment-là une église, d'élaborer un programme iconographique. Une fois qu'on aura décidé des épisodes qui vont être montrés, on va choisir les peintres qui vont les représenter. Alors évidemment, ça va être tout le gratin des peintres académiques officiels de l'époque. Avec cela dit, quelqu'un qui à la fois était devenu très célèbre et très respecté, mais qui était légèrement inadapté, puisqu'il s'agit de Jean-Paul Laurens. Et Jean-Paul Laurens, il était anticlérical. Et anticlérical 19e siècle, c'est-à-dire bouffeur de curés à haute dose. Mais de ça, on va reparler dans un instant. Ce programme iconographique, il va vouloir donc montrer en particulier l'unité du sabre et du goupillon, ça c'est notre vocabulaire, donc l'unité de la monarchie et du catholicisme, et bien entendu dire que la France est la fille aînée de l'Église, qu'elle est la protectrice de l'Église et qu'elle est en même temps sous la protection de tout un tas d'entités semi-sacrées, trois quarts de sacrées, complètement sacrées, du style Jésus, mais vu les lieux, d'abord Sainte-Geneviève, personnage historique, Saint-Denis, personnage probablement historique, Jeanne d'Arc également, on mettra même Charlemagne, histoire quand même de ne louper aucune possibilité. Pour comprendre la manière dont je vais dérouler les différentes descriptions des œuvres, il faut que vous imaginiez que vous entrez dans le Panthéon. En ce moment, en 2022, quand on entre dans la nef du Panthéon, on entre par la porte de droite. Donc vous vous trouvez dans la nef et vous regardez le mur de la nef à droite. Et vous voyez donc la première de ces grandes peintures qui ne sont pas des fresques en règle générale, qui sont ce qu'on appelle des toiles marouflées, c'est-à-dire qu'on va peindre sur une toile et ensuite on va coller cette toile très soigneusement sur le mur. Il y a plusieurs manières d'appeler le Panthéon. Alors déjà le mot Panthéon, vous savez que ça vient du grec, Panthéon, le lieu de tous les dieux, ce qui pour un établissement monarchique est un petit peu discutable. Les monarchiques ne veulent pas l'appeler le Panthéon, ils veulent l'appeler la Basilique Sainte-Geneviève. Il y a quelqu'un qui a écrit que le Panthéon, c'était un lieu accablé d'idées. Et puis, le nom officiel, c'est donc bien Panthéon. Mais moi, j'ai un nom particulier pour le Panthéon. Je l'appelle la Basilique des Tétons. Parce que dans ces peintures monarchiques et catholiques, il y a des tétons. Non seulement des tétons féminins qui réjouissent les mâles hétérosexuels dans mon genre, mais il y a également des tétons masculins, dont j'ignore s'ils réjouissent ces dames et les messieurs qui aiment les messieurs, mais en tout cas, je peux vous dire que tous ces tétons sont tout à fait surprenants. De fait, quand vous regardez cette première peinture sur la droite de la nef qui représente la prédication de Saint-Denis, ce qui vous frappe, ça n'est pas le saint. Car le saint, il est montré un petit peu dans le fond. Visiblement, le peintre a voulu vous convaincre que vous étiez l'un des auditeurs de Saint-Denis, perdu dans la foule. Et ce qu'il vous montre plutôt, c'est une belle jeune femme, qui doit bien faire ses 2,50 m de haut, et qui, on se demande pourquoi, pour une demoiselle que l'on va convertir au christianisme grâce à la merveilleuse prédication de Saint-Denis, son chemisier est grand ouvert et jaillit de sa poitrine, on la voit de profil, un sein en poire. Alors c'est de la comisse bien mûre, c'est une poire colossale, terminée par un téton non moins colossal. Le rapport avec la prédication de Saint-Denis, franchement, on peut se le demander. Alors cela dit, s'il y a des auditrices et des auditeurs qui se demandent « mais qui était Saint-Denis ?» Saint-Denis, c'est un personnage peut-être historique. En tout cas, les chrétiens disent que c'est le premier chrétien qui a rejoint Paris en l'an 250, qui a été arrêté par les Romains, et les Romains lui ont coupé la tête, ce qui ne l'a pas dérangé du tout, car il a immédiatement saisi sa tête dans ses bras, et il s'est dirigé de Montmartre, le Mont Martyr, là où il a été décapité. Il a fait 5 km pour arriver jusqu'à l'endroit où se dresse aujourd'hui la basilique de Saint-Denis. Donc pas du tout la montagne Sainte-Geneviève ou la basilique Sainte-Geneviève, mais bon, c'est pas grave, comme il est donc devenu le premier saint patron de Paris, il était logique de montrer sa prédication dans cette église.
Radio Libertaire, les muses s'amusent.
Une fois que vous aurez vu cette peinture, qui par ailleurs n'a rien de très fantastique, vous avez droit à quelque chose de nettement mieux du point de vue esthétique et pictural, car l'auteur est Puvy de Chavannes. Alors Puvy de Chavannes, c'est un gars intéressant parce que c'était bien un peintre complètement officiel, couvert de commandes officielles. Quiconque a fait des études à la Sorbonne ou est allé à la Sorbonne sait que les grands amphithéâtres de la Sorbonne sont décorés par Puvy de Chavannes. Et en même temps, c'était quelqu'un qui regardait un petit peu ce que faisaient les artistes à l'heure actuelle, reconnus comme beaucoup plus intéressants que les artistes académiques, et qui a essayé de trouver un moyen terme, et en tout cas d'être plus personnel que ce que faisaient les artistes académiques. Donc c'est quand même intéressant à regarder d'un point de vue strictement visuel. Que nous montre M. Puvy de Chavannes sur ce mur de droite de la nef, l'enfance de Sainte-Geneviève. Donc c'est bien un personnage historique, on sait qu'elle a existé. Sainte-Geneviève était la fille de ce qu'on aurait appelé des patriciens si l'Empire romain était encore au point, mais l'Empire romain s'écroule juste un petit peu avant. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que papa de Sainte-Geneviève possédait tellement de terres qu'il y avait au moins tout Nanterre qui appartenait au papa de Sainte-Geneviève. Évidemment, à cette époque, les jeunes filles sont censées se marier. Mais notre petite Geneviève est tellement chrétienne que même quand elle a 9 ans, elle annonce à ses parents « Je ne me marierai jamais car mon époux, c'est le Seigneur Jésus. » Coup de bol pour elle. Il se trouve qu'à ce moment-là, Saint-Germain, alors c'est le Saint-Germain de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Germain-l'Auxerrois, etc. Saint-Germain, évêque d'Auxerre, et Saint-Loup, évêque de je ne sais plus où, partent de France pour aller évangéliser les affreux Anglais. Ils passent par Paris et là, on leur présente la petite Geneviève, histoire de vérifier que ce n'est pas le diable qui lui fait faire tout ça. Et Saint-Germain et Saint-Loup trouvent en elle des éléments définitifs de sainteté. Et donc, elle va devenir une vierge consacrée. Les bonnes sœurs, ça n'existait pas encore. Les couvents, ça n'existait pas encore. Mais elle décide qu'elle ne se mariera jamais à nouveau parce que c'est Jésus qu'elle épouse. Une fois que vous aurez vu cette toile, vous avancez encore un peu et vous tournez à droite dans le transept. La basilique Sainte-Geneviève, maintenant le Panthéon, n'est pas dans un plan de croix latine, et la croix latine, c'est la croix qu'on voit sur toutes les églises catholiques, donc avec la branche verticale plus longue, la branche horizontale plus courte, elle est en plan de croix grecque. Les quatre branches de la croix sont égales. Et le transept, eh bien, quand on entre dans une église, on entre dans la nef. Et puis, à un moment, les branches horizontales de la croix, ça s'appelle le transept. C'est ce qui passe, le transit, c'est ce qui passe dans la croix. Donc, quand on est dans le transept à droite, toujours, ce que l'on voit, c'est le couronnement de Charlemagne. Tout le monde connaît Charlemagne, mais j'ai un petit soupçon. Très peu de gens se souviennent, parce que l'Église catholique n'en fait pas tout un plat, Charlemagne, c'était un saint. Bien entendu qu'il n'a pas eu une vie de saint. Charlemagne était donc quelqu'un d'extrêmement brutal, qui s'est taillé un empire en massacrant ce que l'on pourrait appeler de manière anachronique tant les Français que les Allemands. Seulement voilà, Charlemagne, son empire s'étend petit à petit jusqu'à Rome. Et alors il se trouve qu'en l'an 800, à Noël, le voilà à Rome. Et l'évêque de Rome, c'est le pape. Mais en l'an 800, l'évêque de Rome... Son statut papal est quand même pas terriblement respecté et il voudrait bien, le pape, devenir quelqu'un de plus important. Et donc il a une idée, il se dit ben, il me faut un allié avec un peu plus de muscle que je n'en ai, et Charlemagne, du muscle, il en avait. Et donc, à la complète surprise de Charlemagne, le jour de Noël, le pape lui tombe dessus et le couronne empereur de ce qui deviendra plus tard le Saint-Empire romain germanique et qui était censé être la succession de l'Empire romain. Charlemagne se dit finalement, c'est pas une mauvaise idée, il est pas dupe, il voit très bien que l'évêque de Rome va un allié, mais c'est pas grave. En tout cas, le fait qu'il a accepté d'être empereur, eh bien, ça a été une raison suffisante pour justifier que l'Église catholique l'ait sanctifié. C'est du n'importe quoi complet. Le n'importe quoi, c'est quand même quelque chose dont l'Église catholique est très spécialiste. Si vous continuiez à suivre exactement les murs du transept, vous verriez au centre de l'aile droite du transept des peintures ni très intéressantes quant au fond, ni très intéressantes quant à leur exécution. Donc, vous allez regarder le mur opposé à ce couronnement de Charlemagne. Et là, nous avons une peinture qui me réjouit considérablement. Ces peintures, puisqu'elles répondent à un programme de l'ordre moral, j'insiste, l'ordre moral de 1873, il est à peu près évident que la célébration de l'homosexualité, que les droits des LGBTQE ne sont pas exactement à l'ordre du jour, Et par conséquent, cette peinture que je vais vous demander d'observer, elle est très intéressante. Elle est d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Blanc, hein, comme la couleur, et elle représente le baptême de Clovis. Et alors quand on la regarde, c'est adorable. Car Clovis, historiquement, certainement, c'était une brute comme Charlemagne. C'était un chef barbare des Francs. Et on peut présumer, je ne sais strictement rien de la sexualité de Clovis, il était peut-être bisexuel, mais une chose est certaine, c'est que s'il était homosexuel, il n'en faisait pas quelque chose de très public. Or, ce baptême, c'est mignon comme tout. Le Clovis représenté par M. Blanc, il est beau, mais il est mignon. Il a des grands cheveux blonds, il a des yeux avec des longs cils bruns, un regard de biche, puis alors le corps, musclé, mais musclé, jeune, élégant, lisse, pas un gramme de cicatrice nulle part. Avec une pose, puisque bien entendu il est en train d'être baptisé, donc c'est une pose humble, mais pleine de grâce. Et puis un téton. Non seulement il y a le téton de Clovis, mais juste en dessous de Clovis, il y a un autre barbare, franc, plutôt beau lui aussi, en train de se déshabiller, lui aussi, lentement on imagine, parce qu'il admire Clovis en train d'être baptisé. Et là, c'est pareil, comme il a le torse nu, eh bien, sur le profil du sein, se détache un téton colossal. Pourquoi ces deux tétons? Bien entendu, M. Blanc n'en a pas fait beaucoup de commentaires. Et puis, juste à côté de cette peinture extrêmement amusante du baptême de Clovis, incidemment, l'évêque Rémy, d'où viendra le nom Reims, l'évêque Rémy qui baptise Clovis, il est très mignon lui aussi. Alors très très mignon. Pas vraiment la tête qu'on associe d'habitude aux évêques catholiques. Donc juste à côté, toujours du même peintre, il y a une peinture absolument délirante. Là, c'est un peu plus justifié, car c'est la peinture d'une bataille. Et les batailles, c'est souvent bordélique. C'est la bataille de Tolbiac. Et c'est grâce à la bataille de Tolbiac que Clovis est devenu chrétien. Parce que la bataille tournait très très mal. Clovis se souvient de sa femme chrétienne qui lui a dit « Dis donc, tu sais, Clo-Clo, tu devrais te convertir, ça serait quand même drôlement mieux. » Et là, tout d'un coup, apparaît dans le ciel un étendard avec la croix chrétienne. Et sur cet étendard est écrit en latin, car bien entendu Clovis en bon franc parlait latin. « Hoc signo vinces, par ce signe tu vaincras. » Et là, Clovis dit à Jésus ou à Jéhovah ou à Dieu, on fait un deal, « Si je gagne, je deviens chrétien. » Des cieux tombent la voix. Il a gagné Tolbiac, donc il est devenu chrétien.
Il m'arrive durant ma vie de saltimbanque de me retrouver seul à l'hôtel dans mon lit pour dissiper l'angoisse et combler quelques manques. Jusqu'au petit matin, insomniaque, je lis. En quête l'autre soir d'une saine lecture pour m'enrichir un peu et juguler l'ennui, j'ai trouvé par hasard les saintes écritures posées négligemment sur la table de nuit. L'objet de prime abord pourrait paraître austère, aucune illustration pour mettre en appétit. Le titre sur le cuir est en gros caractère, hélas à l'intérieur c'est écrit tout petit. L'œuvre à certains égards côté rocambolesque fait penser à Tintin, l'immortel vadrouilleur, et pour venir à bout d'un travail titanesque, comme chez Sulitzer, l'auteur était plusieurs. Malgré crimes, larcins, trahisons, impostures, incestes, viols, complots, batailles sans merci, massacres macabres, tortures, forfaitures, une certaine éthique habite le récit. On peut y déceler quelques invraisemblances, mais l'intrigue est complexe, hérissée d'inventions. Et tout bien réfléchi, ça n'a pas d'importance, c'est le lot habituel des romans de fiction. Dès qu'un drame survient, qu'un incident éclate, on peut les repérer sur le calendrier. À chaque événement correspond une date. Dans la plupart des cas, c'est un jour férié. Le lecteur est conquis dès la première page. À peine commencée, l'histoire tourne mal. Après l'intervention qui perturbe un ménage d'éléments extérieurs, un fruit, un animal. Inévitablement, pour perpétuer l'espèce, Caïn doit s'accoupler à l'un de ses parents. Si ce n'est cet instant de petite faiblesse, on ne note aucun signe immoral apparent. 930 ans de vie, c'est une peccadille, sûr qu'il y avait foule à son enterrement. Et pour coucher tous les membres de sa famille, Adam dut rédiger un bien long testament. Ève est belle à croquer, mais peindre la jeunesse demande un minimum d'études et de savoir. Émule de Manet, de la croix véronaise, effacer ce nombril que je ne saurais voir. Tout bien vérifié, je persiste et je signe. Récemment dans la rue, j'ai tenté quelques pas, habillé simplement d'une feuille de vigne. Sans l'aide de la main, l'affaire ne tient pas. Me pardonnerai de passer sous silence appendices, sermons, poèmes, élégies, et par un raccourci venir au fer de lance au passage essentiel de cette anthologie. J'ai quelques réticences à croire qu'une vierge puisse se retrouver sans une opération, enceinte jusqu'aux yeux sans avoir vu la verge, quel imparable obstacle à la contraception. J'imagine Joseph agitant sa varlope, invectivant Marie devant son ventre rond. Immaculé mon cul, tu m'as trompé salope, si c'est le Saint-Esprit, je suis Napoléon. L'érotisme est partout qui nous tient en haleine, les époux du cantique ont des refrains galants, la belle Sulamite et Marie-Madeleine ont le regard brûlant et le corps ondulant. Il suffit de deux mots et voilà qu'on s'égare. La multiplication des pains m'a dérouté. Fébrile, j'attendais une bonne bagarre. Le coup du magicien est ma foi bien monté. N'étant pas Dieu merci de ceux qui font l'épître, en brocardant voyance et fantasmagorie, nous laissons à l'auteur libre voix au chapitre. Évitons le procès de la sorcellerie. C'est la phase enchantée, un héros plein de charme, pratiquant la manie et la bracadabra, d'un geste, d'un clin d'œil, vous sauve, vous désarme, l'infaillible Zorro guérit à tour de bras. Infirme sur lépreux, bègue paralytique, aveugle esprit impur, belle mère impotent, ici c'est un manchot, l'un épileptique, et la plus fort encore, c'est tout en même temps. La scène de la scène est plutôt lamentable, l'on va démasquer le disciple infidèle. Mais on est trop nombreux, quand on est très à table, il en est toujours un pour foutre le bordel. Je frissonne d'effroi au moment du partage. Manger ça c'est mon corps, buvez ça c'est mon sang. Me voilà tour à tour, vampire anthropophage, ce morceau d'épouvante est vraiment oppressant. On soigne le détail esthétique et pratique, tout est en harmonie, admirez cette croix, ses lignes épurées, sa forme ergonomique, agréable à porter, maniable de surcroît. Qu'aurait dit Jésus face à des énergumènes, au mépris du confort et de son embarras, lui tendant lâchement une croix de Lorraine, l'engin est mal foutu, je n'ai pas quatre bras. Sans dévoiler la fin par ailleurs fantastique, j'avoue que subjugué par un déferlement de désordre violent, voire apocalyptique, j'en suis resté béat, c'est un vrai monument. J'écrirais un papier si j'étais journaliste, je ferais volontiers de la publicité en inscrivant l'ouvrage en tête de la liste des bouquins qu'on peut lire à la plage l'été. Pour l'œil inquisiteur, la critique est facile, tout comme saint Thomas, j'ai des doutes parfois. Mes propos ne sont pas paroles d'évangile, le profane est sceptique en toute bonne foi. Partout dans mes tournées, désormais je l'emporte, c'est mieux que la télé, débitant ses navets, mon Amérique à moi, ma Bible en quelque sorte, mon guide, mon sauveur, mon livre de chevet. Et si je vous convainc et vous sensibilise, alors pensez à moi quand vous le dévorez, je convie les bigots, les grenouilles d'église à lire un exemplaire et à s'en inspirer. Ah, je vous vois venir hâter de pacotille avec vos gros sabots comme des bulldozers. C'est vrai que ces gens-là bouchent leurs écoutilles, mais tant pis, j'aime bien prêcher dans le désert. Prêcher dans le désert.
Radio Libertaire, les muses s'amusent.
Maintenant, nous quittons l'aile droite du transept. Nous sommes donc maintenant plutôt vers le cœur, mais nous restons orientés vers le mur droit du transept. Et là, on voit l'une des peintures les plus belles, il y en a quand même des belles, de tout ce panthéon et de tout ce programme iconographique de l'ordre moral. Et c'est celle qui me fait personnellement sourire, car c'est celle de l'anticlérical de M. Jean-Paul Laurens. Ou Laurens, je ne sais pas très bien comment on prononce L-A-U-R-E-N-S. Monsieur Jean-Paul Laurens, de naissance assez humble, quasiment ouvrière, Il est très doué et il va gravir l'échelle des grades de la peinture académique. Donc il deviendra membre de l'Académie des Beaux-Arts. Comme très souvent chez les peintres académiques, Jean-Paul Laurence sait mettre en scène très très bien. Il a une supériorité sur une grande partie des autres peintres académiques. Ses personnages sont infiniment plus crédibles, plus réalistes, moins physiquement stéréotypés que ceux que l'on voit dans les tableaux des peintres académiques. Et en particulier, c'est l'un des charmes de cette peinture, c'est que, comme il a voulu représenter les Parisiens assistant à l'agonie, à la mort de Sainte-Geneviève, eh bien, à l'évidence, il est allé chercher des Parisiens prolos. Peut-être qu'il leur a fait couper les cheveux à la mode barbare, c'est-à-dire avec un bol sur la tête et puis on a une espèce de coupe de cheveux toute ronde. Il leur a donné des costumes en espérant que c'était les bons costumes de l'époque et il les a représentés. À nouveau, il y a, dans une foule qui est habillée, une jeune femme blonde, entièrement nue. Voilà un bandeau dans les cheveux, c'est tout. On se demande ce qu'elle fiche là.
C'est la vérité.
Bien entendu. Elle a un air très sérieux, et puis en plus, elle aide quelqu'un qui, à l'évidence, est son grand-père, lequel grand-père est visiblement très très vieux, mais a voulu quand même rendre visite à Sainte-Geneviève sur son lit de mort. Mais pourquoi est-ce qu'elle est toute nue ? Le bras du grand-père ne cache pas, ça aurait été dommage, n'est-ce pas, le téton de cette jeune femme blonde. Également, juste en dessous de la jeune femme blonde, il y a une toute petite fille, blonde elle aussi, donc il faut imaginer sa fille, une fillette de 3 ou 4 ans à tout casser. Donc là, le téton en est à des dimensions moins évidentes. Deux choses sont très amusantes dans cette peinture de Jean-Paul Laurence. Premièrement, il reprend ça de l'iconographie des ermites en particulier catholiques pour montrer que les pauvres viennent soutenir Sainte-Geneviève parce qu'elle a soutenu les pauvres. Un personnage en premier plan, il est agenouillé, mais on le voit de dos, il n'a pas de chaussures. Donc il a les pieds nus, immondes. Et on voit que Jean-Paul Laurence s'est amusé à bien représenter le pied bien sale du gars qui passe sa vie pieds nus. Dans quelle mesure est-ce que ce n'est pas là une petite chose ironique, disant « Vous avez voulu que je peigne une peinture chrétienne ? Eh bien, moi, je vais vous en donner la peinture chrétienne avec cette paire de pieds absolument immonde. » Autre chose, alors là, que tout le monde a remarqué, c'est pas du tout moi qui le fais remarquer, un journal de l'époque appelé Le Soir a écrit que Jean-Paul Laurence avait plutôt représenté la mort de Voltaire que celle de Sainte-Geneviève. La mort de Voltaire. Oui, Voltaire le mécréant, Voltaire l'anticatholique, l'anticlérical. Car, de fait, pour une toile qui représente la mort d'une sainte, c'est pas chrétien du tout. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas d'auréole, il n'y a pas Jésus dans les cieux qui attend l'arrivée de Sainte-Geneviève, il n'y a même pas d'évêque, de curé, alors que, à l'évidence, si la mort de Sainte-Geneviève a bien été publique, c'est absolument certain qu'il y avait l'évêque, des curés, peut-être des chanoines, je ne suis pas sûr que les chanoines existaient déjà, il y avait certainement tout ça.
Oui, mais il y a la bonne femme à poil.
Il y a la bonne femme à poil qui compte bien pour la vérité. L'ange blond, désolé, elle n'a pas d'aile. Il y a quand même un symbole chrétien. C'est un symbole maintenant relativement oublié, sauf des chrétiens bien sûr. Juste au-dessus de sa tête, il y a une espèce de grand, c'est pas un bouclier, mais enfin une espèce de grand truc rond, avec, ça ressemble à la lettre P, et puis il y a un X, enfin c'est le monogramme qui donne un nom de Jésus grec, et qui est donc effectivement un symbole chrétien. Mais franchement, on a l'impression simplement de la mort d'une vieille dame. Et incidemment, la dite vieille dame, comme modèle, Jean-Paul Laurence est allé chercher une vieille dame qui était elle aussi plus ou moins à l'article de la mort dans la poubelle à femmes, la salpêtrière. La salpêtrière, qui fut un temps, à l'époque de Louis XIII, effectivement un lieu où on récoltait du salpêtre, donc un lieu pas très sain, d'autant qu'il était environné de marécages. Eh bien, sous Louis XIV, on va transformer la salpêtrière en poubelle à femmes. C'était à la fois un hôpital psychiatrique, un hôpital, un hospice, une prison, du logement social. C'était un lieu où on rassemblait les athées, les protestantes, les avorteuses, les enseignantes d'avortement, les sorcières. Alors les sorcières qui se croyaient vraiment sorcières, les femmes qu'on accusait à tort d'être sorcières, les pauvres, tout simplement, les mendiantes pauvres, les vraies folles, les fausses folles, les vraies malades, les épouses dont les maris voulaient se débarrasser. C'était pas très compliqué. Vous n'aimiez plus votre épouse. Eh bien, vous alliez voir monsieur le lieutenant de police. Vous disiez, écoutez, monsieur le lieutenant de police, ma femme est adultère, c'est vraiment pas bien. Je ne veux pas qu'on l'exécute, mais je souhaite m'en débarrasser. Et donc, on l'envoyait à la salpêtrière. On payait une petite ou grande pension, selon qu'on était petit ou grand. Et on condamnait sa femme à la réclusion à perpétuité à la salpêtrière, qui était évidemment un lieu quand même très très grand, mais les seuls hommes qui se trouvaient dans la salpêtrière, c'était, il y avait trois catégories d'hommes, il y avait les sentinelles qui empêchaient les hommes d'entrer pour aller voir les prostituées, mais les femmes de sortir, il y avait les curés, et puis il y avait, bien entendu, comme en un lieu où il y avait 4000 femmes, dont des prostituées, dont des mendiantes, dont des folles, ben fatalement il y avait des femmes enceintes. Quand ces femmes enceintes donnaient naissance à des enfants, ben on les gardait dans la salpêtrière. Quand ces enfants étaient des garçons, ben on les gardait quand même à la salpêtrière. Et on sait que, malgré tout, certains garçons dépassaient la puberté, qu'on les gardait dans les ateliers, dans les cuisines. Et personnellement, je me suis souvent pris à rêver à ce qui devait arriver entre ces jeunes garçons, les prostituées. Enfin, je présume que la vie quotidienne à l'intérieur de la salpêtrière devait être vraiment démentielle. À l'époque de Jean-Paul Laurens, la salpêtrière n'est plus qu'un hôpital psychiatrique, mais comme chacun sait, les hôpitaux psychiatriques, ça n'est pas exactement folichon. Et donc Jean-Paul Laurens est allé chercher une vieille dame à l'agonie et il l'a mise sur un grand lit. C'est grâce à elle qu'il a donné un visage à Sainte-Geneviève.
De l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées. Car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes. Car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter. Pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini et il vous tend de sa puissance pour que ses flèches puissent voler vite et loin, que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Thank you.
je vous suggère maintenant de regarder le mur du fond. Le mur du fond, il est d'abord caché par une grande sculpture dont on va parler un petit peu plus tard. Et donc, il faut que vous alliez derrière la sculpture. Et là, vous allez voir une peinture paradoxale, car d'un point de vue purement visuel, elle est extrêmement réussie et elle est également complètement idiote. C'est une peinture d'un monsieur de taille, un peintre spécialisé dans les peintures militaires. Alors, ça s'appelle « Vers la gloire ». Et de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit des soldats français, des cavaliers, qui sont sur leurs chevaux, en grand galop, qui escaladent une espèce de spirale, une spirale invisible, c'est leur mouvement qui crée la spirale. C'est très très bien fait. Et évidemment, ils montent vers où ? Ils montent vers la gloire qui les attend tout en haut. Et le côté imbécile, déjà, c'est cette idée de vouloir absolument célébrer les victoires militaires et d'avoir un truc idiot. Parce que là, il s'agit de célébrer les victoires des armées françaises. Pour montrer que ce sont des soldats victorieux, ils tiennent les drapeaux des ennemis, qu'ils ont saisis aux ennemis. Donc, c'est le marrant de l'histoire, on ne voit pas un seul drapeau français. On voit des drapeaux autrichiens, russes, tout ce qu'on veut. Et on se demande en plus, mais qu'est-ce que c'est que ces drapeaux ? Parce que ce sont les drapeaux des anciens régimes, on ne les reconnaît pas. Donc, c'est une peinture franchement bizarre. Alors, elle est d'autant plus bizarre que le pauvre de taille, eh bien, on a couronné sa peinture d'un truc complètement différent et qui est de très loin la peinture la plus moche de tout le bâtiment. Il y a quelques peintures gratinées dans cette basilique, mais la pire est donc celle au-dessus de la peinture de M. De Taille. Ce n'est pas une peinture, c'est une mosaïque. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un peintre, M. Hébert, qui avait un musée, lequel musée est fermé depuis un bon bout de temps. Ce n'est pas un peintre très intéressant, mais il devra rouvrir, j'imagine. Il a tenu à ce que sa peinture ne soit que le carton pour une mosaïque, qui a été réalisée par un artisan italien. Et cette mosaïque, alors attention, le titre, « Le Christ montrant à l'ange de la France les destinées de son peuple ». Et alors, c'est moche, parce que le pauvre Hébert, il s'est dit, je vais faire une mosaïque. Alors une mosaïque, les grands de la mosaïque, c'est qui ? C'est les Byzantins. Bon, les mosaïques byzantines, les personnages sont hiératiques, ils sont raides, ils ne bougent pas. Ah oui, mais alors, ceux de Hébert, c'est la paralysie totale. Et alors en plus, il leur a donné des gueules anguleuses, parce qu'effectivement, on voit ça, on pense immédiatement aux icônes byzantines, aux mosaïques byzantines, mais les visages dans ces icônes et dans ces mosaïques sont des visages très ronds. Et lui, Hébert, on ne sait pas pourquoi, il leur a donné des visages triangulaires. Je ne dis pas des héros de manga, mais quasiment. En plus, on ne sait pas très bien qui est qui. Alors, il y a bien un ange, et puis on a du mal à comprendre. On identifie quand même au bout d'un moment le Christ, et puis on identifie l'ange de la France. Il n'y a que deux personnes qu'on reconnaît facilement. Sainte Geneviève, parce qu'elle a le bâton, la crosse du berger. Et puis quelques moutons, puisque les Parisiens étaient son troupeau, elle était leur bergère. Et puis on reconnaît Jeanne d'Arc. Et alors Jeanne d'Arc, c'est à mourir de rire. Jeanne d'Arc, très souvent, le racisme aidant, et puis elle est supposée être Lorraine, et bien d'habitude, on représente Jeanne d'Arc en blonde, aux yeux bleus. Il y a certaines peintures, d'ailleurs il y en a une dans le Panthéon, qui représente Jeanne d'Arc en brunette. Ah oui, mais alors, la Jeanne d'Arc de Hébert, c'est une gitane. Il lui a fait une tête de gitane, et pourquoi est-ce que je dis gitane ? Parce qu'il lui a donné une boucle d'oreille énorme en or et qui fait, mais qui fait Esmeralda devant Quasimodo. C'est à pleurer de rire. Enfin, cette mosaïque est totalement loupée, alors que d'un point de vue purement technique, le mosaïste italien qui s'est chargé de l'exécution a fait un très bon travail, mais le contenu de cette peinture est tout simplement ridicule et l'exécution du carton est franchement extrêmement laide.
Over God's kingdom. There was a rebellion in Mumbai, and the devil wanna take over God's kingdom. And Jaja was wrought against the devil. Jaja was wrought.
He was wrought
against Satan. Thunder.
great fire. Chase the devil away.
Chase the devil away now.
Chase the devil away.
Chase the devil away now.
And it's Michael and Gabriel and Raphael and Uriel. Oh Lord, chase the devil away.
Chase the devil away now. Chasing all the devil away, Lord. Chase the devil away now. Chasing all the devil away, Lord. Chase the devil away now.
Oh yes, 'cause I and I are sovereign souls. Oh, of creation, spiritual warriors on the strut. We won't yield to your temptations, 'cause I and I are here to cast your spells away, to cast them away. Break down and cast them away. Hey, hey,
there was a rebellion in heaven, and the devil
wanna take over God's kingdom. God's kingdom, and Jaja was war against the devil. Jaja was war against Satan. Chase the devil away.
Chase the devil away.
Heureusement, dans ce cœur, il y a peut-être la plus belle peinture. Donc là, vous vous tournez vers le mur de gauche. Et en considérant le mur de gauche du cœur, vous avez trois très beaux tableaux de Puvis de Chavannes qui représentent Sainte-Geneviève veillant sur Paris. Et je vous recommande spécialement celui où on voit la nuit, donc c'est un clair de lune magnifique. Sainte-Geneviève est toute seule sur une espèce de balcon. Elle regarde Paris. Et ça, franchement, c'est de loin la plus belle image de toutes ces peintures payées par M. le Marquis de Chenevière, directeur des Beaux-Arts de M. MacMahon. Et puis, si vous venez donc dans l'aile gauche du transept, alors là, franchement, la plupart des peintures n'ont pas grand intérêt. Donc, jetez un petit coup d'œil rapide. Vous verrez une sculpture, mais j'en parlerai dans un instant. Revenez dans l'entrée de la nef, et là, nous aurons la plus drôle. Alors, il faut absolument venir sur ce qui est maintenant la sortie, qui longtemps fut l'entrée, mais enfin bref, maintenant c'est la sortie. Et juste avant la sortie, donc, vous avez une peinture très bien faite de M. Léon Bonnat. Qui était M. Léon Bonnat? On l'a un peu oublié, mais pas tant que ça quand même. Léon Bonnat était un excellent portraitiste, qui a fait des dizaines de portraits des sommités du 19e siècle. Et en général, ces portraits, il n'y a pas de doute, sont très bons. Mais là, on lui demande d'illustrer le martyr de Saint-Denis. Et c'est absolument délicieux. La composition est intelligente. Il y a une espèce de grande diagonale faite à la fois par la hache du bourreau, par le bras d'un acolyte. C'est très bien vu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est l'instant où Saint-Denis vient d'être décapité, où pour cacher son horrible blessure, apparaît une belle auréole sur la plaie, et Saint-Denis, représenté en vieux monsieur maigrichon, attrape sa propre tête. Et là où c'est drôle, il y a deux choses. À gauche, regardez bien, vous verrez, il y a un pied, juste un pied. C'est la foule terrifiée par ce miracle qui fuit. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que Léon Bonnat, qui était un peintre académique, qui n'aimait pas du tout les peintres beaucoup plus modernes, eh bien là, il reprend une astuce, en particulier de Degas, qui coupe le cadre de manière très violente pour retrouver l'illusion réaliste de la photographie. Donc ce pied qui fuit, c'est délicieux. Mais le plus drôle, c'est le bourreau. Alors, à nouveau, le bourreau. Il est beau. Les fesses minces, les épaules larges, les pectoraux bien dessinés, avec un téton qu'on ne peut pas manquer. Mais encore mieux, ce bourreau, donc de l'an 250 après Jésus-Christ, il a la moustache d'un prolo du 19e siècle. On voit que le bon Bonnat, il est allé chercher un artisan ou un ouvrier et il lui a dit « Attends, tu me fais le bourreau et la coupe de cheveux et la moustache en croc, c'est exactement la gueule d'un prolo du 19e. C'est absolument délicieux. » Voilà, c'était les peintures du rez-de-chaussée de la nef du Panthéon.
La peinture en langue ouaille, c'est bien difficile en ouaille, mais c'est bien plus beau d'Ali d'Aladi à Dadi que la peinture à l'eau. Ah, à l'eau, ah, rapetit péta, petit péto, rapetit péta, petit péto, carabide, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable, elle est admirable, on en mangerait. Un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. C'est un jeu face à Hawaïle. On dit de verre en Hawaïle. Et puis on termine Dali, Daladi, Adadi par plaisanterie fine. À l'eau de sels, rapetit péta, petit péto, rapetit péta, petit péto, carabide, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable, elle est admirable, on en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Les automobiles dans les rues des Fawaïles, c'est moins rigolo. Dali, daladi, adadi, que les pédalos à l'eau. Ah, à l'eau, ah. Rapetit péta, petit péto. Rapetit péta, petit péto. Carabide, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable et est admirable. On en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Faut pas se faire de bawaïle. C'est bien inut à Waïle. Et ça rend morose. Dali, daladi, adadi. Vaut mieux se faire autre chose. Aloha. Rapetit péta, petit péto. Rapetit péta, petit péto. Carabide, carabo. Rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable et admirable. On en mangerait un tout petit peu, tout petit, petit peu. 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 En l'envoyile.
Radio Libertaire, les muses s'amusent.
Doubt and pain. Me damn sure. saints as heads as tails just come.
Libertaire, les muses s'amusent. Illustration musicale Ennio Morricone, la Bible de Bernard Joyet, le prophète de Bachar Mar-Khalife, Rebellion in Heaven de Ina de Yard, Bobby Lapointe chante la peinture à l'huile, Sympathy for the Devil.